Coucou à tous.
Coucou à tous.
Bienvenue dans le Tatou du Coin pour ce nouvel épisode, pour cette nouvelle année qui commence.
Désolé.
Je suis vraiment navré. Je vous prie de m'excuser.
Je suis en retard. Je vous prie de me sucer. Suce-moi toi.
Je voulais vous poster cet épisode beaucoup plus tôt. Et puis, en fait, les grandes vacances sont arrivées. La famille, toi-même, tu sais. Tac, tac, bim, bim, j'ai été pris entre deux ou trois trucs de ma vie perso, et puis c'est super chronophage. C'est une année où j'ai beaucoup de changements dans ma vie perso, donc voilà, je vous prie de m'excuser. Alors, aujourd'hui, de quoi on va parler ? On va parler de la fin du tatouage. Le tatouage est mort, vive le tatouage. C'est le post que j'ai vu passer sur Instagram dernièrement. Il me semble que c'est originellement de Michael de Poissy. Joli post, joli verbe. Mais c'est vrai que ça fait un moment que c'est sur toutes les langues chez les tatoueurs. Est-ce que le tatouage est en train de mourir ou pas ? Grosse question. Moi, j'ai vu passer plein de points où je me suis dit, putain, mais voilà, faut réagir, faut dire un truc. Parce que, comme d'hab, il y a des conneries, voilà. Forcément, on ouvre un tiroir, ça dégueule, il y a des trucs par terre. Donc, il y a beaucoup de conneries. Il y a aussi beaucoup de vrais. Donc voilà, au programme de cet épisode, je vais vous faire un petit sommaire. En gros, on va parler de quoi ? Eh ben, on va parler d'abord de pourquoi le tatou c'est mort. On va faire la liste des points de ce qui craint en fait, ce qui pêche à mort. Et puis on va voir après comment est-ce qu'on peut-être essayer de ranimer la flamme. Comment est-ce qu'on pourrait essayer de remettre le métier de tatoueur sur un piédestal ou du moins de lui redorer le blason. Ok, allez, sans attendre, je vous laisse avec le début de l'épisode. Bonne écoute à tous. Aïe, 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 ça sent le sapin, les gars, ça sent le sapin. Oui, le monde du tatouage est un peu en train de se péter la gueule. Alors, je précise un peu, c'est cyclique, mais c'est vrai que je pense que les clients ou les tatoueurs s'en rendent bien compte, le monde du tatouage est en train de se vanner de ouf. Et le premier point dont je voulais vous parler, c'était le fait qu'il y a une offre énorme et cette offre est tellement grande qu'elle dépasse la demande. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que tous les jours il y a des nouveaux arrivants dans le monde du tatou. Rien que sur Colmar, il doit y avoir un peu plus d'une vingtaine de shops qui ont ouvert, mais alors vraiment super rapidement ces dernières années. Alors je suis là que depuis 6-7 ans dans le métier, mais je les ai vus arriver en légion, en masse, proliférer comme des bactéries. Non, je déconne, c'est bien, hein, c'est bien que des gens se lancent, mais voilà, il y a plein de nouveaux arrivants, sans compter voilà les autres trucs comme les écoles de tatou, ce que j'appelle moi les Stacy Tattoo. Alors les Stacy Tattoo, c'est quoi ? Pas d'offense envers les meufs qui s'appellent Stacy, ok ? Mais je trouvais que ça reflétait bien, il y a un côté comme ça un peu impulsif, il y a un côté gribouillis, il y a un côté j'ouvre mon petit shop où je fais un jeu de mots, tu vois, genre tatou compris dessus. Et puis voilà, je fais des petits gribouillis là, de tu sais mes petits gribouillis que je faisais en marge là de mes copies de cours d'histoire. Et puis voilà, je vends ça en plus pas cher, comme ça je flingue bien le moral à tout le monde, à tous les tatoueurs. Et puis comme il me faut un shop, je vais me foutre dans l'appart de mon oncle qui me laisse gratuitement avec ma super copine Stacy. Voilà, c'est le genre de shop qui va courir sur le haricot de pas mal de gens. Alors il y a les prix, on va discuter prix des tatous, parce que il faut savoir que les prix des tatous, c'est pas le même partout. Il y a le prix des tatous en France, et puis je vais faire un gros parallèle avec le prix des tatous aux US, ou alors le prix des tatous dans les pays de l'Est. Et on va parler aussi des écoles de formation tatouage. Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Et pour cette rubrique demande-offre, on va finir par une petite histoire de lifestyle de tatoueur. et pourquoi ce petit lifestyle de connard, en fait, il est en train de ruiner le métier. Ensuite, on va voir rapidement comment le fait de vouloir légiférer, parce que là, il y a beaucoup de gens qui parlent de vouloir mettre plus de lois pour un peu plus normer le monde du tatouage. Pourquoi le fait de légiférer, ben c'est de la merde. Et on va passer sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe avec les réseaux sociaux et qu'est-ce qui se passe avec le flouze. Bon, les nouveaux arrivants, les petits nouveaux, les petits d'air, les mecs des terres. C'est très bien. En fait, c'est très bien pour le métier que ça vive. Ça, c'est bien que ça change aussi. C'est bien que ça évolue. Voilà, je suis pas. Pour moi, c'était mieux avant, mais je suis pas non plus fermé à l'ouverture des métiers ou des trucs. Voilà, mais il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans le tatou. C'est un truc qui devient vraiment mais viral quoi. Il y en a partout. Franchement, il y en a partout. Et ben maintenant, vu qu'il y a eu les émissions Tattoo, vu que il y en a partout, vu que il y a les réseaux sociaux pour démocratiser le truc, ça met une grosse concurrence envers tout le monde, même envers des gens qui sont localement implantés avec des gars qui sont super connus à l'international. Et puis ça crée aussi plus de niches dans le tatouage. Il y a des gens qui se spécialisent dans un style. D'ailleurs, c'est mon cas. Comme vous le savez, je suis spécialisé dans la gravure. Mais voilà, le fait qu'il y ait des nouveaux arrivants, moi je trouve ça cool. Par contre, c'est le flux. Le flux, lui, il est hardcore, quoi. Donc le flux est un peu trop gros et ça fout un sbeul pas possible. Après, je voulais vous parler des écoles de tatou. Ok. Alors, ça, en fait, j'ai vu passer quelques trucs sur les écoles de tatou. Il y en a beaucoup, hein. C'est vrai que ça ouvre, ça pullule. Je crois qu'il y en a même pas mal en Suisse, en fait. Je crois que les Suisses, ils aiment bien ce délire. Ils ont carrément l'école suisse de tatouage. Et en France, on a l'école française de tatouage. Je crois que les mecs, ils ont pris le nom le plus générique possible. Genre, c'est nous, on est là, t'as vu. Et du coup, il y a des écoles qui ouvrent partout. Alors, à ce point, moi, j'aimerais dire un truc très simple. Est-ce que les écoles c'est mauvais ou pas? J'ai envie de dire que non. Pourquoi? En fait, parce que si vous prenez le principe d'un électricien, d'un chaudronniste, d'un tourneur-fraiseur, ce que tu veux, un plaquiste, un carreleur, des écoles d'électriciens, il y en a partout en France. Et il y en a depuis des années. Et en fait, les trucs sont vides. Les chaises sont vides. D'accord? Il n'y a plus personne qui veut faire ce métier. En fait, c'est juste ça. C'est que plus personne se bat pour ça. C'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, si tu dois changer une serrure chez toi, ça te coûte 300 balles. Et c'est pour ça aussi que si tu veux un meuble qui pèse un peu en joli bois, tu vas voir un ébéniste et le mec, il va te faire raquer ta race. Donc, en fait, pour moi, les écoles de tatou, c'est pas vraiment le souci. Pourquoi c'est pas le souci? Parce qu'en fait, c'est juste les gens qui se ruent sur des conneries. Alors oui, on va me dire que les écoles de tatou, en plus, elles forment mal, qu'elles devraient former bien. Mais, enfin, je veux dire, ça, c'est le lot de toute école. Excusez-moi du peu, mais soit tu vas dans des écoles, soit tu fous ton gamin dans une école qui a un peu de renommée et qui claque, soit tu sais qu'en fait, ton gosse, il va finir avec une Maximator et un Yinche. Non, je déconne, mais en gros, c'est un peu ça qui va se passer. C'est-à-dire que c'est normal. Et puis, il faudrait voir si toutes ces écoles sont pourries. Il y a peut-être une école dans le lot qui est pas mal, en fait, finalement. Bon, Stacy Tattoo. Alors voilà, c'est le moment où je pourrais être très méchant. Je vais essayer de pas l'être. En gros, les Stacy Tattoo, si je devais mettre une échelle de 1 à 10 concernant l'art... je dirais que voilà, on frôle le 1 mais on n'y est pas. Et en fait, ok, d'accord, c'est cool, c'est sympatoche. On n'est pas tous obligés de se prendre la tête, mais réfléchir égale pas se prendre la tête. Ça, j'aime bien le rappeler. Et je trouve que voilà, c'est un truc compliqué. Les Stacy Tattoo, c'est ce que j'appelle les petits shops qui ont ouvert. Leur loyer il est super pas cher, voire gratuit, parce que les meufs, elles se sont installées dans l'appart du cousin, de la tante, de machin. Elles font ça sous le manteau, les prix sont super bas, les meufs, elles gribouillent, elles s'amusent, elles sont super tendances. Elles ont des réseaux sociaux qui sont maximisés de ouf sur ce qu'elles aiment, les chats, les feuilles de vigne, les scrapbooks, et ce que tu veux, et les courses chez Super U, mais pas d'artisanat. Donc, clairement, c'est le genre de truc qui peut rendre assez fou. Je sais pas, imaginez, le tatoueur, il est là depuis 20 ans, tu vois. Il y a des tatoueurs à Colmar qui sont là depuis des années, des dizaines d'années. Mais t'imagines bien que ces gens-là, forcément, ils ont envie de faire une descente du coude du haut de la troisième corde. en backflip, tu vois, pour le sport, et terminer le truc. C'est normal, c'est normal. Donc voilà, il y a l'arrivée des Stacy Tatou, ça va en fait avec le principe des nouveaux arrivants, c'est pas de boule. Ensuite, il y a les prix. Alors les prix, je l'ai rangé, le principe du prix, je l'ai rangé dans la demande et l'offre, parce que c'est aussi une course comme ça. C'est-à-dire que il y a des mauvais réflexes avec les prix. Déjà, faut savoir que les prix des tatous en France, en moyenne pour une pièce de, je sais pas, les, je veux dire 15 cm, on va être entre 150 et 400 balles. Ça va dépendre du tatoueur, ça va dépendre de s'il fixe ses prix à l'heure ou s'il fixe son prix sur un forfait. Bon, voilà. En gros, ça c'est les tranches. Maintenant, si tu vas aux USA, ton tatou c'est 2 000 $. Tu vois? Donc là, faut bien réfléchir là-dessus sur le comment on se positionne. En gros, il y a une petite course au prix parce que, bah, comme il y a de moins en moins de clients pour le nombre de tatoueurs, les mecs ils baissent leur prix au maximum pour essayer d'avoir le plus de clients. Mais c'est logique. C'est logique, c'est une des lois de l'économie, malheureusement. Mais bon, toujours est-il que bah, ça baisse bien la gueule à tout le monde et que ça nous aide pas beaucoup pour redorer le blason du monde du tatouage. Et puis, je vais finir ce point offre-demande avec le principe du lifestyle du tatoueur. Alors, quand je veux parler comme ça là, du lifestyle du tatoueur, je souligne bien comment il se présente sur les réseaux. Voilà. À un moment, mets un froc, tu vois, mets un slip, mets un froc, peigne-toi les cheveux en arrière. En fait, voilà, je sais que ça a voulu être cool, le tatou, mais là, c'est devenu trop cool. C'est devenu beaucoup trop cool, c'est devenu beaucoup trop décontracté. Il y a des bas troués, là, il y a des cheveux mal coiffés, comme si on était dans le 16e à Paris, ça va pas du tout. Donc, j'ai envie de dire que c'est le moment où il faut se rendre compte que malheureusement, beaucoup de gens ont donné une image un peu trop branchouille, un peu trop bâtarde du tatou, et que bah, du coup, maintenant, on se retrouve un peu dans la merde. Parce que, bah, vu que le tatouage, c'est répandu, il serait de bon ton de ramener aussi plus de monde à la cause du tatouage et de peut-être aller toucher d'autres sphères du tatouage. Et pas seulement que l'univers un peu huile de moteur, boule de billard numéro 8, crâne en feu. Voilà. Mais c'est le monde du tatouage, il est comme ça. Moi, je vais pas le changer. Il vient de là, donc c'est tout à son honneur. Moi, j'ai pas envie de jeter des pavés dans la mare. Je fais que dire simplement les trucs que j'ai constatés. Pardon. Yes. Ok. Alors, second point, c'est le fait de vouloir absolument légiférer le monde du tatouage en se disant que c'est ce genre de truc qui va résoudre les problèmes. Alors, je vais le dire aussi simplement que ça me vient. C'est la pire. Mais la pire idée possible au monde.
Mais rien à développer, c'est de la merde, c'est tout.
Au monde, je vous le dis clairement. Surtout quand t'es français, c'est le pire truc à faire. Déjà, avant ça, avant de parler de ça, moi, il faut arrêter maintenant de vouloir tout légiférer. Ça suffit. Enfin, les gens vont commencer un peu de nouveau à se recalquer sur un modèle humain, à se refaire confiance, à se redébrouiller. Se sortir les doigts du cul, on peut très bien le faire nous-mêmes. La preuve, c'est que le monde du tatouage, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'il vit tout seul et il s'en porte très très bien. Posez la question aux anciens, ils vous diront que bah il y avait pas de souci, on a des fiches, on a de quoi faire signer, il y a des dasseries, il y a des formations hygiène. Le truc, il est cadré. Maintenant, vouloir rajouter plus de lois, c'est des conneries. Pourquoi ? Je vais vous le dire, parce que le point numéro un que l'État va faire quand il va passer le truc au microscope et à la loupe, c'est qu'il va augmenter les taxes. Je veux dire, ne pas s'en rendre compte, c'est criminel. Vous le savez très bien, que ce soit pour n'importe quoi, à partir du moment où l'œil de Sauron, là, il se tourne comme ça, là, tu vois que le rayon, il est dans le Mordor, et tu vois qu'il y a des reflets dans les nuages parce qu'il est en train de tourner, là, il passe du nord au sud, et qu'il arrive sur ta gueule, tu le sais que tu vas te faire taxer. Tu le sais, hein, mais clairement, hein, t'as les deux mains sur le palantir, ça craint. Donc, plus de taxes directes, plus de paperasse. Donc, comme si on n'avait pas déjà assez de boulot, je rappelle qu'un tatoueur, c'est le mec qui fait à peu près tout. Sa com, ses réseaux sociaux, les dessins, pardon. Le mec, il va se taper sa compta. Enfin, voilà, tu te tapes déjà à peu près tout. Donc, c'est déjà assez chiant. Je rappelle que le temps, c'est de l'argent. Ça, je pense que tous les entrepreneurs l'ont bien en tête. Si vous l'avez pas en tête, changement de voie direct. Mais en gros, c'est ça. Et puis surtout, si il y a une augmentation, par exemple, des contrôles, parce que je comprends bien, c'est ce qu'on veut. On veut que les petits charlatans, ils se fassent choper comme ça au vol, et que bah du coup, ils se prennent une grosse fessée, une grosse punition, une amende, et puis que ils arrêtent de pratiquer. Mais déjà de un, on sait très bien que ça marche pas, ça. Ça pousse justement au marché au noir. Et de deux, les gars, les contrôles, faut les payer. Les contrôles, faut les payer. Et avec quoi on paye des contrôles, les gars? On les paye avec des impôts. Et qui c'est qui paye les impôts? Eh ben voilà, Moret.
Moi, je pense que la question, elle est vite répondue.
Donc voilà, en gros, légiférer... ouais, je suis pas flocon sur l'idée. C'est pas top top. Y a plein d'exemples, de toute façon, comme ça, voilà, où on a voulu mettre des lois et on se retrouve avec des trucs. Je crois que c'est le code du travail maintenant, il me semble, en France, qui a dépassé le nombre de pages de la Bible. Il y a un truc comme ça, hein. Si je dis pas de conneries, en Suisse, ça doit être 30 pages. Voilà, donc même le truc « Nul n'est censé ignorer la loi », là, c'est perdu, les gars. Hein. Ensuite, on arrive sur les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, je vais surtout rester sur Instagram, parce que Facebook à l'agonie, je sais pas qui reste vraiment là-dessus. Moi, de toute façon, je suis pas un gars des réseaux, donc je m'en bats les couilles total. Je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire Instagram. Donc TikTok, les gars, enfin voilà, je vais le prendre de loin, hein, je vais survoler le truc. TikTok déjà, tu vois. Déjà rien que quand je dis le nom, hop, il y a une petite conjonctivite.
La conjonctivite de l'œil est une inflammation de la mince couche qui recouvre la surface de la paupière.
Donc je vais éviter de trop y aller. Je suis vraiment un vieux con là-dessus. Alors je vais vous surprendre, mais je vais commencer par dire que les tatoueurs et les tatoueuses qui font leur story permanente avec leur life et tout machin sur Instagram par exemple, et qui se présentent sous leurs meilleurs jours, sous leurs meilleurs atouts, sous leurs meilleurs trucs bidule machin bidule. En fait, en gros, je trouve que c'est pas si simple à faire. La preuve étant, c'est que je suis diplômé d'école d'art et de design graphique. Et faut gérer tout ça. Faut gérer tout ça. Souvent, quand tu regardes un truc et que ça te paraît juste normal, c'est qu'en fait, la personne, elle a bien fait le taf derrière. Parce que s'il y a un mauvais son, s'il y a un mauvais éclairage, s'il y a un mauvais titre ou une mauvaise typo, en général, les gens, ils tapent dedans à coup sûr. Donc déjà, juste si le truc te convient et que tu trouves ça assez sympa, c'est que la personne, elle a fait un bon taf. Puis ça prend du temps. Ça demande des skills de monteur, ça demande des skills avec son appareil, savoir comment filmer, voilà. Alors je sais, tout est de plus en plus assisté, ça c'est un gros problème aussi, mais je vais pas m'attarder là-dessus parce que sinon je vais rentrer dans le débat de l'intelligence artificielle. Et là, clairement, ça va me donner envie de faire du parachute avec un parpaing, donc je vais vraiment éviter le débat. Mais en gros, je voulais tirer mon chapeau pour tous ces influenceurs qui sont pour moi plus des influenceurs, parce que c'est un métier. Savoir que c'est un métier, finalement, qui passe plus de temps à travailler sur leur réseau, d'accord, que d'artisanat de tatoueur. Et il n'y a pas de honte à ça. Mais par contre, en termes de métier, si tu fais tes rentes par tes vues de tes stories, de tes montages et de tes trucs, plus que par ton travail d'artisan, ça veut dire que ton métier, c'est pas le bon, ou alors que tu te définis par le mauvais métier. En gros, si c'est vraiment ça qui te fait connaître, c'est que tu es un très bon influenceur, tant mieux pour toi. Tu serais sans doute peut-être même un très bon chef d'entreprise, parce que la plupart des gars dans le game comme ça, c'est des gros chefs d'entreprise, que ce soit n'importe quel youtubeur dont je prononcerai pas le nom, mais on en a tous en tête des mouse. Voilà, c'est des mecs, c'est des chefs d'entreprise. Ils gèrent très très bien leurs images, ils gèrent très très bien leur com, ils ont clairement plusieurs personnes qui travaillent pour eux. Donc, je voulais commencer par ça, par dire que c'est du taf, c'est très bien, mais c'est pas du tatou. Et ça ne montre en aucun cas l'artisanat, malheureusement. Puisque montrer l'artisanat, ça reviendrait à en parler, à écrire, à se positionner en tant qu'artiste. Un artiste, ça écrit. Tu vois, un mec qui fait des charpentes, et ben en fait, il prend un petit bout de papier, un crayon, il met des cotes, il met des chiffres, il met des trucs, il prend des notes. Et ben un artiste, il fait pareil. Normalement, il a un petit carnet un peu joli là, et puis il écrit des trucs dedans. D'accord ? Il note un peu ses pensées, il regarde un peu vers où son art se tourne, tu vois, il est comme ça, ça passe par ça depuis la nuit des temps. Il peut s'en passer, mais c'est pas très intéressant. Hein. Comme le charpentier peut faire au jugé, il peut mettre 3 clous comme ça à la louche, mais en fait, en général, son truc va se péter la gueule. Donc, je voulais vraiment bien retenir ce point-là. Je pense que c'est important de le mettre en lumière. Ensuite, il y a le principe de vouloir être une star. Alors, laissez-moi rire. Vouloir être une star, en fait, c'est nul, les gars.
C'est nul.
C'est nul de quoi ? Bah déjà parce que votre vie après c'est de la merde. Enfin je veux dire, il suffit de regarder le nombre de dépressifs et de dépressions qui sont faites par des gens qui deviennent d'un coup très connus, surtout aujourd'hui, parce qu'en général tu vas avoir 40% de gens sympas et 60% de harcèlement. Donc bah, les gars, à un moment faut peser le pour et le contre. Et puis juste une star, je sais pas moi, c'est un peu naze, non ? Enfin je sais pas, elle est où la quand tu te couches le soir en fait. Elle est où ta médaille? Il est où l'honneur? Tu vois? Il est où le? C'est bizarre quand même. Enfin, je veux dire, tu vends quoi? Tu vois? Tu vends un peu du vent, quoi? Oui, c'est moi, je suis connu, mais enfin, je veux dire, Paris Hilton elle était de bonne famille, tu vois? Donc, il y avait peut-être un intérêt. Et encore. Mais là, sinon, je vois pas. C'est vraiment une mode très très étrange. C'est-à-dire que je peux percevoir. J'ai eu quelques profs comme clients qui me disaient que leur gamin aspirait à ça. C'est-à-dire que maintenant c'est sur la checklist quoi. Il y a même plus je veux être connu comme bûcheron ou je veux être connu comme joueur de pétanque. Non, je veux juste être une star. De quoi ? Mais je veux être une star. Donc ça fout un sbeul aussi pas possible parce que tous les moyens sont bons. En fait, en gros, si tu regardes les stories d'une meuf qui est dans le volet ou une meuf qui fait du tatou ou une meuf qui est mannequin ou une meuf qui est youtubeuse, les stories sont toutes les mêmes. Il y a un chihuahua dans un panier à vélo et puis il y a une promenade au parc, voilà. Il y a des légumes frais, il y a des astuces routines, enfin je suis désolé, c'est horrible, mais c'est devenu ça. Il y a une standardisation de tout qui fait qu'en fait le tatouage c'est pareil que la cuisine. Et c'est super dommage, c'est vraiment super dommage. Alors en plus aujourd'hui on a assez de recul et on a des influenceurs, donc hein, des personnes très présentes qui font leur bise sur les réseaux, qui commencent à nous parler en fait, tu vois. Ils commencent à nous dire comment ça se passe. Et j'avais vu un truc très sympa comme ça, bon qui faisait froid dans le dos quand même, mais très sympa, où il y avait des youtubeurs qui expliquaient leur vie. Donc, ils montraient que tout ça, c'était un peu la grosse banane. Par exemple, ils avaient loué un spot où il y a un demi-jet, tu vois, un demi-jet privé. Ils rentraient dedans et ils se prenaient en vidéo. Ils disaient, ouais, voilà, on est en plein voyage vers Dubaï. On vous fait gagner des trucs en jet et des sacoches, machin. Mais c'est horrible. Je veux dire, c'est horrible. Après, ils trouvaient une fontaine qui ressemblait, voilà, une fontaine proche de Dubaï, qui faisait un peu stylé. Et en fait, ils se filmaient comme ça vers le bas, en contre-plongée. Et puis, ouais, c'est cool, on est bien arrivé et tout. En fait, c'est du flan à mort. C'est super dommage. Je veux dire, faut vraiment vivre avec ça, quoi. C'est compliqué, tu vois. C'est compliqué. Moi, des fois, je me mets une galère quand je dois choisir du pain de mie ou du pain complet. Je sais pas comment ils font ces gens-là quoi pour survivre avec ça. Je dis vraiment, le soir tu te couches, tu te dis putain j'ai foutu une banane à tout le monde. C'est vraiment compliqué quoi. Donc voilà, pour les réseaux sociaux, je trouve que c'est dommage. C'est dommage parce que le Instagram par exemple se prêterait vachement à cette formule d'artisanat. Il y a un côté contemplatif, en fait. On peut prendre le temps. C'est pas encore TikTok, il n'y a pas cette frénésie. C'est nous, hein. C'est nous avec le pouce qui sommes frénétiques. Mais il y a encore ce moment de contemplation. On voit encore un peu des belles photos, des belles images, des gens qui ont envie de prendre le temps de faire des trucs sur Instagram. Donc, c'est dommage. Il faudrait tendre vers ça parce que c'est un pivot. Et je vais en parler à la fin sur le fait de vouloir reprendre goût à l'art et de comment reprendre goût à l'art. Ok, bah du coup, on va parler flouze. Flouze. En fait, déjà, je tiens à dire, c'est pareil. Je vais commencer pareil qu'avec les réseaux sociaux. Le flouze, pour moi, c'est pas un souci. Le flouze est une bonne chose, mais dans le sens où peut-être, moi, je le prends comme ça en tout cas. C'est-à-dire que le flouze, pas pour le flouze, mais le flouze en sa qualité de libérateur. Le flouze, moi, je trouve que l'argent, c'est une manière d'être plus libre. de pouvoir se détacher de plein de choses qui sont chiantes et de pouvoir s'assurer comme ça une vie un peu plus pérenne. Esquiver des files d'attente, ce qui est clairement un privilège, hein, qu'en France on traiterait les gens de gros connards, de salopards, de riches ou de trucs, mais je veux dire, je crois que n'importe qui serait très heureux d'éviter une file d'attente interminable pour monter dans un avion ou des galères. Voilà, si tu peux avoir un petit salon privé avec une chocolatine, tu vois, et un petit café, franchement, je pense pas que on jetterait la pierre au délire. Donc en un premier sens, comme ça, l'histoire de la thune, c'est pas un souci, je trouve. Par contre, maintenant, quand on l'injecte comme ça dans le monde du tatouage, je voudrais venir sur un point, les gars. C'est ce que j'appelle, moi, le calcul à deux balles. Alors, le calcul à deux balles, c'est quoi? C'est très simple. C'est une personne qui s'était dit un jour, tiens, j'aime bien le tatou, je me suis déjà fait tatouer plusieurs fois et tout. J'ai fait les comptes, j'ai fait mes calculs. Tu vois la connerie arriver, tu la sens arriver en fait. Et le mec, il est parti d'un principe simple. Il est allé chez son tatoueur une après-midi. Le tatoueur a pris une après-midi pour lui, et le mec lui a filé pour le taf, il lui a filé 300 ou 400 balles. Le mec il s'est dit putain, attends, bah, moi oh, je file 400 balles à mon tatoueur pour une après-midi. Et le mec, si ça se trouve, il a bossé ce matin, donc il a aussi demandé 400 ce matin. Donc il se fait 800 la journée. Et s'il fait ça 5 jours dans la semaine, eh ben il se fait un gros paquet de pognon. Et si tu multiplies ça à l'année, ça fait un pognon immense. Alors, ça, c'est vraiment la connerie, je pense, hein, la connerie première qui fait que les gens ont envie de devenir tatoueur. Je pense que c'est le marchepied pour monter dans le carrosse de la merde. C'est vraiment l'idée la plus fausse qu'on peut se faire du monde du tatoueur. Pourquoi ? Parce que déjà, les gars, ben, il faut les clients. Il faut les clients. Je veux dire, l'argent, il tombe pas du ciel. Donc, il faut trouver ses clients, ce qui est déjà extrêmement compliqué pour remplir un agenda. Hein. Je vous rappelle qu'on n'est plus il y a 30 ans. Il y a 30 ans, ça marchait très bien. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et surtout, faut pas oublier les taxes, les gars. Hein, j'en parlais avant avec le fait de légiférer. Il y a plein... Voilà, on a légiféré certaines choses. Eh ben, les impôts, c'est quelque chose qui a été légiféré. Et tu sais qu'il y a Lulu qui arrive.
Ma lubulule !
Et Lulu, il te loupe pas. Lulu, il te loupe pas. Et puis ensuite, bah, y a ton loyer à payer en tant que tatoueur. Et oui, puisque c'est légiféré, donc bah, tu peux pas tatouer chez toi. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu loues un shop, d'accord? Et quand tu loues un shop, eh ben, ça te coûte une burne tous les mois. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes en train de vous dire, tiens, je me lancerai bien dans le tatou et que vous écoutez ça, je vous préviens, revoyez vos comptes à la baisse, d'accord? Et surtout, vous faites pas baiser par la première impulsion. La première impulsion, c'est quand tu commences à scratcher chez toi pour te lancer comme tatoueur, tu vas avoir plein de clients. Bah, parce que tes potes, ils sont tout contents. Ils vont venir te voir direct. Ah, trop cool, je peux me poser chez toi, on peut boire une bière, on peut discuter. Tu vas piquer. Je l'ai fait aussi. J'avoue, ça existe. Mais le problème, c'est que, déjà, tes tatouages, ils vont être à chier. Ça, je te le dis. Et ça, c'est de sources sûres. Donc forcément, peut-être que les gens y reviendront un peu moins, mais en plus de ça, ça va s'essouffler très très vite. Ça va s'essouffler à une vitesse grand V, parce que les gens, ils viennent pas toutes les deux semaines avec un nouveau projet tatou. Donc tu vas te retrouver dans des boucles infernales, d'accord ? Donc voilà, c'était le petit conseil du père Bubu, mais en gros, vraiment, faites pas ce calcul à deux balles. Ne vous laissez pas avoir par cette réflexion à la con, ça marche pas. Et puis, question pognon, je vais finir par l'inflation. Alors, il n'y a pas grand-chose à en dire, parce que je suppose que tout le monde comprend bien ce qui se passe. En fait, cette inflation, ça serait plus juste de la présenter comme ça, c'est que notre fric, il vaut plus rien. Il est en train d'être dévalué chaque jour qui passe. Pourquoi ? Parce qu'il y a une production de billets, de monnaie qui est beaucoup plus grande que le stock d'or. C'est un principe économique. Et du coup, bah, ton fric ne vaut plus rien. Vous pourriez comparer, hein, le prix de l'essence dans d'autres pays, aller plus loin, dans l'Est, voilà, ou en Asie. Regardez combien ça coûte l'essence là-bas, combien elle coûte ici. Donc, c'est pas forcément un truc généralisé. Par contre, ouais, c'est la merde. C'est la merde. On en a gros, ça va mal. Et cette boucle à l'inflation, en plus, elle est interminable parce que elle crée une mauvaise synergie. En gros, le boulanger, il se dit merde, attends, le coût de la vie augmente. Ma Porsche, elle me coûte beaucoup trop cher. Donc, mon petit croissant, il va passer de 2 à 3 euros. Voilà. Mais en fait, le mécanicien qui voulait venir prendre son petit croissant à 2 euros et qui l'a vu à 3 euros, il s'est dit, putain, attends, et si le croissant il augmente, moi je vais augmenter mes prix aussi. Hein? Donc le taux horaire à la réparation mécanique, ben, tiens, boum, je vais lui mettre un petit 10% dessus. Je vais lui mettre un petit 15%. Et en fait, ça va être pareil. Après, c'est l'urgentiste qui se retrouve avec lui, qui lui dit, tu te rends compte, je suis pas assez payé, moi je me tape des trucs avec des gars qui ont envie de se coller une balle, ou qui se loupent, qui sautent des ponts, voilà, je dois faire des trucs de ouf. Il y a le chaudronniste qui va dire, ouais, mais moi en fait, à chaque fois que je soude, j'ai des trucs qui me rentrent dans les chaussettes, j'ai des trous dans les pieds. Et ça fait une boucle comme ça, ça fait une boucle horrible. Parce que à la fin, le boulanger, il se rend compte que merde en fait, c'est... Les autres ont aussi augmenté, faut que je monte aussi. Ça fait une course horrible. Donc l'inflation participe énormément au fait que le tatouage se pète la gueule. C'est logique. Tout pays qui a connu des problèmes comme ça économiques sait que bah, les petits plaisirs, c'est ciao. Hein, on se réfugie sur quoi ? On pense au gaz, on pense à chauffer sa maison, on pense à voilà l'électricité, on pense à d'autres plaisirs, on pense à d'autres trucs, une bonne pièce de viande. Mais c'est vrai qu'après le tout le côté un peu artistique, le côté plaisir, voilà, ben celui-là il file à la poubelle. C'est logique. Bon voilà, c'était le point pognon. Je vous propose de passer au point qui pour moi va être le plus intéressant puisque pour moi c'est la source. Du problème, c'est le monde de l'art et peut-être dériver un peu sur un côté un peu plus socialo-culturel, mais toujours en revenir à la base, le monde de l'art, le beau, etc., etc. Alors en gros, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, on est dans un monde où la communication, elle s'est accélérée. Les internets ont mis vraiment un coup de pied dans la fourmilière et ça va de plus en plus vite. On est en surconsommation. En fait, ce qui se passe quand c'est comme ça, c'est qu'on consomme vite, on se goinfre. Et quand on se goinfre, eh ben, tu remarqueras qu'on prend plus le temps de goûter. Tu sais, c'est ce fameux truc du moment présent, là. C'est dans un bouquin d'Eckhart Tolle, c'est assez intéressant. Il dit que quand tu commandes une bière, en gros, ce qui se passe, c'est que tu vas... Ou un autre breuvage, on s'en fout, mais tu vas prendre ton verre, et tu vas goûter la première gorgée comme ça. Celle-là, tu vas la goûter, tu vas laisser tes papilles y aller, tu vas prendre le temps, tu vas dire, tiens, elle a une note de machin, ça sent le cacao, ça sent ce que tu veux, tu vois. Et en fait, après, le reste des 50 centilitres, boum, c'est dans le gosier. Et on n'y pense plus. Et en fait, il y a un effet comme ça. Il y a un effet siphon, il y a un effet gloutonnerie qui se passe, qui fait qu'on n'a plus le temps de contempler. Et je vais vous dire un truc, là, je vais me permettre de parler... en tant que artiste, parce que je peux pas venir avec ma casquette de tatoueur. Le problème, c'est que ça fait que 7 ans que je fais ce métier. Il y a des mecs qui sont street cred depuis des dizaines d'années, d'accord. Donc moi, je vais venir avec ma casquette d'artiste pour parler de tout ça. En fait, en gros, cette gloutonnerie, elle vous flingue parce que le premier truc qu'il faut garder en tête pour pouvoir profiter d'une pièce artistique, quelle qu'elle soit, hein. Mais votre gamin qui dessine sur une feuille de papier ou un lever de soleil, ce que vous voulez, c'est le temps de contemplation et de compréhension. La contemplation, c'est regarder les choses et prendre le temps de les regarder. Et ce truc-là, s'il n'existe pas, c'est mort. C'est mort. Dites-vous bien que quand vous regardez des pièces de tatou sur le net, je suis prêt à parier que vous la regardez pas en détail. C'est quasiment sûr. Et c'est un truc de con. Mais le monde de l'art, aujourd'hui, il est devenu ça. Et c'est très compliqué. Et en termes de légitimité, j'y reviens, mais je me permets de dire ce genre de truc. Pourquoi ? Parce que, oui, d'accord, je vous saoule avec ça à chaque fois. Oui, je suis diplômé d'école d'art et tout.
Trop, c'est trop ! Franchement, tu me saoules !
Mais c'est pas rien, les gars. Je me suis enfilé toutes ces années. Donc oui, effectivement, je suis diplômé d'école d'art et j'ai bouffé de l'art sous toutes ses formes, les gars. Toutes ses formes. Scénographie, architecture, graphisme, ce que tu veux, de l'art, de la performance. J'ai fait... Enfin voilà, j'ai étudié que ce soit les poésies dadaïstes ou alors, je sais pas moi, la Pissotière de Duchamp, jusqu'à... on peut revenir plus loin chez les peintres impressionnistes. On peut aller de l'avant. J'étais au Palais de Tokyo. Je me suis retrouvé au Palais de Tokyo, les gars, dans une galère de ouf, à regarder une performance avec un un mec de la cinquantaine avec des lunettes noires, un jeans et un blouson en cuir, qui faisait des onomatopées, là, du style ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, comme ça, pendant des heures. Et franchement, le truc a dû durer au moins 40 minutes. Et à un moment, il s'est pissé dessus. Mais ça faisait partie de la performance, tu veux. Tu vois, son jeans, comme ça, il y a une tache foncée qui a commencé à grandir.
C'est la honte sur toi! Trop dégueulasse!
Et ça faisait partie de la performance. Le mec se pisse dessus, les gars. Ok, je me suis pécho ce genre de truc. J'ai fait du land art là, hein. Je me suis tapé du land art là avec des mecs qui installent des trucs sur des arbres. Je me suis tapé du land art avec un mec qui faisait des traces avec une petite carafe comme ça. Il faisait des traces dans l'eau. J'ai perdu son nom là. C'est pas Christo. Je sais plus. Il fait des. Si c'est peut-être Christo. Faudrait que je vérifie. Il faisait des traces comme ça dans le sable. Il dessinait avec l'eau et puis après ça s'évaporait. Mais les gars, je viens avec cette casquette-là, ok? Je viens avec cette légitimité-là. Et en plus, je vais rajouter la légitimité de la musique. Pour ceux qui le savent pas, j'ai été pendant pas loin de 15 ans dans le monde de la musique. Donc, si vous voulez, avec attaché de presse et tout ça, machin, signature sur des gros labels. Donc, je le connais, le monde de la musique. J'ai été loin, j'ai beaucoup voyagé. Et puis, j'avais une équipe qui s'occupait de ça, d'accord? Attaché de presse, bidule, machin. Donc, je connais cet univers-là. Il n'y avait pas encore le Instagram à l'époque, c'était pas encore ça. Moi, quand on a commencé, il y avait déjà MySpace. Putain, mais ça me rend vieux de ouf. Mais il y avait MySpace et on passait comme ça par MySpace. Donc, je connais bien ce game, d'accord. Ça veut pas dire que j'ai les solutions, mais en tout cas, je connais bien ce game. Et c'est pour ça que je me permets de faire un peu mon papy castor là et de vous expliquer ces trucs là. Mais c'est super important de bien comprendre que c'est la cause première, à mon sens, du déclin du tatouage. Tatouage, c'est vraiment une forme d'art très 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 particulière et qui repose essentiellement sur des sentiments. Hein, c'est quelque chose de très personnel. Les gens, s'ils viennent se faire tatouer, ils ont vécu des trucs de ouf et ils ont besoin comme ça d'exorciser. Ils ont besoin de sortir des émotions. Sauf que sortir des émotions, c'est pas facile. Sinon, on n'aurait pas besoin de psychologue et de trucs comme ça. Donc voilà, le métier, il est extrêmement artistique. Je pèse mes mots à l'extrême, d'accord. Je le répète, le tatouage, c'est le sport extrême du dessin. Donc c'est extrêmement artistique. Et en même temps, il y a une dimension très spirituelle. Donc on est obligé d'être dans la contemplation. On peut pas rusher comme ça. On peut pas tout le temps se faire un petit Kirby, un petit Pikachu, un petit machin sur le corps. Sinon, à la fin, on ressemble à une feuille A4 de cours d'histoire, comme je vous disais là. On ressemble à ça, à une marge à carreaux, à une marge à grands carreaux là, de feuilles de cours d'histoire. Et les gars, c'est nul, d'accord ? Je vais vous dire un truc. On va parler, si vous voulez bien, 2 minutes de, par exemple, la cérémonie d'ouverture des JO. Ouais, je sais, d'accord. Je sais. Ça va faire tout un truc. Mais j'ai pas envie d'en parler sur le principe de l'offense, hein, du fait que je me fasse offenser ma race avec la religion. Mais en fait, c'était pas vraiment ça. À la rigueur, je m'en fous. J'ai pas envie de parler de ça. Par contre, j'aimerais parler du point de vue artistique. Parce qu'il y a bien des gens qui se sont retrouvés autour d'une table. Il me semble que, alors on m'a dit, je sais pas si c'est vrai, mais que par exemple dans l'équipe il y avait Daphné Burki. Donc il y a bien des gens qui se sont retrouvés autour d'une table pour discuter de la performance. C'est une performance, hein. D'accord? Donc il y a bien les gens qui se sont retrouvés là pour parler des costumes, des couleurs, des lumières, de l'emplacement, voilà, quel pratos, hein, va où, t'as des techniciens, il y a plein de trucs, c'est une grosse équipe quand même, parce que c'est un truc, faut l'organiser, c'est quand même un sacré challenge. Donc, il y a une formule artistique, on est d'accord? Il y a une proposition artistique qui est faite, et en fait, sans même le débat de l'offense et de la signification et des trucs comme ça, les gars, je vais vous le dire, c'est nul. La cérémonie des JO, artistiquement parlant, c'est de la merde. Je sais pas, mais enfin, tu prends en matière de cérémonie. Je sais pas, on a déjà vu quand même un peu plus stylé, non? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que t'as envie d'avoir un poster de la cérémonie des JO dans ton salon? Non mais, alors oui, si, pour la déconne, ouais, pour la déconne, il y a moyen de se marrer à donf. Mais sinon, c'est nul, les gars, artistiquement. C'est, tu vois. Je sais pas le débat politique, hein, je m'en fous d'un bord de l'autre et tout. Celui-là, je le mets de côté, mais artistiquement parlant, c'est de la merde.
C'est quoi ça ?
C'est un caca.
C'est pas intéressant. Et alors, me dites pas, ouais, mais il y avait des grosses lumières, il y avait du gros son, il y avait Snoop Dogg, il y avait des paillettes, il y avait des trucs. C'est nul. Chez Avatar aussi, il y a des mecs avec des paillettes qui tournent. C'est plus stylé. Je veux dire, faut arrêter. C'est... Je comprends pas, en fait, ce truc de rester, comment dire, aussi autant attaché à la déconne et de pas vouloir un moment aller chercher quelque chose de beau, de transcendantal, tu vois. Je veux dire... Je sais pas, moi, en tant que père de famille, je m'imagine à la cérémonie avec mon gamin sur les genoux. Mais je sais pas, moi. Est-ce que je suis en train de communier un truc avec lui, là, et la nature, là? Est-ce que je suis en train de le faire rêver, le gosse, là? Est-ce qu'il a, après ça, il vient me voir et me dit, papa, je veux être astronaute ou je sais pas. C'est, sans déconner. Artistiquement parlant, la proposition est nulle. Et alors, le message, en plus, excuse-moi, mais, pendant mes diplômes, je devais montrer patte blanche et avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'analyses sur mon propre travail. Bah là, les gars, bonne chance, hein. Parce que là, ça passe pas au rattrapage, hein. Même la deuxième fois. Donc, il y a vraiment un souci avec la consommation de l'art, avec la présentation de l'art. Parce que, en fait, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. On est devenus des boulimiques d'art comme ça. Il y en a partout. Il y en a partout du graphisme. Il y en a dans les pubs. Il y en a dans le design de votre téléphone, de votre écran d'ordi. Il y en a tout le temps sur les lignes de votre bagnole. Et en fait, c'est devenu comme ça une partie du monde. Tout aussi abstraite qu'une bouche d'égout ou n'importe quel autre truc. Ou qu'un packaging de riz complet, quoi. C'est le problème, en fait. Et c'est vraiment un truc super important. Et puis je trouvais que le message, il était pas le bon, quoi. Tu vois ? Une fois, on avait bossé comme ça avec des gars des DNA qui étaient venus. Et puis il fallait qu'on écrive un article. Alors, si je me souviens bien, l'exercice, c'était un truc. Il fallait trouver un titre pour un article. Tu sais, parce que quand t'es graphiste, tu dois trouver des logos, tu dois trouver des phrases un peu punchy, des trucs comme ça, des baselines, tu vois, pour des logos. Et du coup, les gars des DNA étaient venus bosser avec nous, et le sujet, c'était un échange Paris-Tokyo. Il fallait trouver des titres comme ça pour un article. Mais gros, quand tu disais une connerie, ou que t'étais un peu à côté, que tu parlais pas correctement du sujet, c'était mort, hein. C'était mort, le mec, il te jetait une pièce, et puis tu repartais au bout de la file. Donc... Là, c'est pareil, je sais pas ce que ça représentait, je sais pas ce que ça proposait. Je m'en fous, en fait, hein. Encore une fois, je m'en fous de ce que ça propose. Ça aurait pu proposer mon cul sur la commode, d'accord? Ce que je veux dire, c'est que c'était la cérémonie des JO, d'accord? Et pour moi, ça ressemblait à la cérémonie de l'Eurovision. Or, tu remarqueras que Jeux Olympiques et Eurovision, c'est pas la même chose. Ok? Donc si, en fait, la cérémonie d'ouverture, tu peux l'imputer à d'autres trucs, tu vois, ou à la Paris Game Week, ou à la, tu vois, à d'autres trucs comme ça, à la Fashion Week, c'est qu'il y a un souci de message. Parce que si normalement tu présentes la cérémonie et que tu coupes les feux après et que tu tends un micro à un gars, tu lui dis alors ok, c'était la cérémonie d'ouverture de quoi, et qu'il est pas capable de te dire de quoi c'est, les gars, c'est qu'il y a un souci quand même, hein. C'est qu'il y a un petit problème, hein. Donc voilà, je trouve que il y a un souci. Alors on se retire de cette histoire d'ouverture des JO, j'ai pas envie de faire débat non plus, mais voilà, je trouve que c'est super important de bien garder ça en tête. L'art, c'est pas juste prendre un pinceau et s'exprimer sur une toile et faire le mongol et flap, 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 comme ça.
Oh, ça c'est de l'art. Je vais me payer une petite branlette.
De spignoler avec un pot de peinture. Vraiment, il y a une recherche, quoi. Enfin, je veux dire, même dans les plus grandes conneries que vous pouvez voir des fois dans les musées, où vous faites, oh, attends, c'est abusé, c'est un sachet avec une ficelle. Ben, des fois, il y a un mec, il a essayé de trouver un truc. Voilà. Il a essayé de faire passer un message. Et des fois, c'est nul. Des fois, c'est nul. Et là, je trouvais que c'était nul. Et en plus, c'était dénué de sens. Et que ça reflétait très, très bien notre société actuelle. Alors, je me suis amusé un peu, j'ai demandé à ChatGPT de me parler un petit peu de ce déclin artistique. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que tu trouves que il y a un déclin artistique, que les gens deviennent un peu plus cons, hein, je vais le tourner comme ça, au niveau artistique. Et je vais commencer par sa conclusion, parce que voilà, faut que je me fasse aussi l'avocat du diable, je me dois de le faire. Je trouvais que sa conclusion se tenait plus ou moins. Si on se met à grande échelle humaine comme ça, il disait qu'en fait, je vous lis, hein, il est probable que la sensibilité à l'art change plutôt qu'elle ne diminue. Les formes d'art sont en constante évolution et le rapport des gens à l'art s'adapte aux nouvelles réalités culturelles et technologiques. Ce qui pourrait sembler être une perte de sensibilité, entre guillemets, est une perte peut-être simplement... maintenant est peut-être simplement une nouvelle manière d'interagir avec l'art, plus rapide et parfois plus superficielle, et qui ne signifie pas nécessairement une disparition de l'intérêt pour l'art en profondeur. Et dans son développement, il me met un point aussi, voilà, je vous le lis, hein, parce que c'est assez pertinent. Concernant le rôle des réseaux sociaux et de la culture populaire, il dit ben, d'un côté, les réseaux sociaux permettent une plus grande diffusion de l'art, rendant l'art accessible à des millions de personnes, mais d'un autre côté, la culture de la consommation rapide pourrait parfois banaliser l'art et le transformer en un simple contenu. Et dernier point, consommation rapide et immédiateté. Donc c'est encore une fois un ChatGPT qui me dit « La société actuelle est axée sur l'immédiateté et la gratification instantanée. Cela peut influencer la manière dont l'art est perçu. Les gens recherchent des expériences artistiques rapidement consommables, parfois au détriment d'œuvres qui demandent plus d'investissement émotionnel ou intellectuel. L'art devient parfois un produit à liker rapidement, ce qui peut réduire sa valeur perçue comme un objet de contemplation ou de réflexion. » Donc voilà, voilà. Là, c'est pas moi qui l'a dit, c'est ChatGPT, votre grand maître à tous. Non, mais voilà, ChatGPT, pour le coup, va faire une somme hein, de toutes les informations qu'il peut retrouver. Ça me permet, je m'en sers des fois, ça me permet d'avoir une moyenne de pensée, on va dire. Mais c'est évident. Si même ChatGPT peut me le sortir en quelques lignes, c'est d'une évidence folle. Il y a une surconsommation de tout, surtout du visuel. Les yeux sont des grands, grands bouffeurs de l'extrême aujourd'hui. Et en fait, on se sature de conneries au détriment, effectivement, de choses qui nécessitent en tout cas de la réflexion ou qui en proposent. Et c'est là que ça devrait être intéressant, les gars. C'est là qu'on devrait envoyer la banane, la grosse banane. C'est que il faut absolument renouer avec ça. Il faut renouer avec le principe de calme, d'art, de découverte de l'art, de l'artistique. Je rappelle cette phrase qui m'est chère, et en plus j'ai oublié de qui elle est, mais qui dit que, en gros, l'art, c'est ce qui rend la vie plus belle que l'art. Donc c'est bien qu'il y a un dessin, c'est bien que ça sert à quelque chose, l'art. C'est pas seulement bouffer pour bouffer, c'est pas un buffet à volonté de chez le nouage d'à côté, c'est vraiment un truc où il faut prendre le temps. C'est comme la musique. Rappelez-vous simplement des CD que vous écoutiez. Si vous êtes un ancien comme moi, le fait d'aller à la Fnac d'écouter un CD avec le petit poste d'écoute dégueulasse avec les oreilles toutes grasses, et ensuite d'acheter le CD, de rentrer chez soi, de le mettre, de s'allonger, de prendre le temps d'écouter tout le CD, c'était un truc de fou. Mais c'est là qu'il y avait une vraie découverte. Aujourd'hui, l'industrie, elle est complètement différente. Et justement, avec mon groupe, j'étais sur cette période charnière. Donc, je l'ai vu arriver. J'ai vu arriver l'événement des singles. J'ai vu ce truc. J'ai vu, il y avait SoundCloud à la fin. Quand le groupe a commencé à freiner, à s'arrêter, parce que le groupe est fini aujourd'hui, il y avait ça, il y avait SoundCloud. Et je voyais cette recherche perpétuelle de poster encore et encore et encore, d'avoir de l'actu, toujours plus d'actu, pour surtout pas être noyé dans le flot des autres. C'est ça le souci. C'est que chacun déverse son putain de seau à max dans la baignoire. Et en fait, du coup, ça noie tout le monde. C'est vraiment un truc, je vous jure, c'est essentiel. C'est essentiel. Il faut prendre le temps, au moins pour ça. Au moins pour ça, d'accord ? Si tu veux t'enfiler ta schnitzel en 2 minutes, il n'y a pas de souci. Par contre, tu n'en auras pas le goût. Tu auras le ventre tout plein là, comme ça. Tu seras tout bien repu, il n'y a pas de problème. Mais tu n'en auras pas gardé le goût. Il n'y aura pas eu le plaisir. Ça. D'accord ? Donc vraiment, pour moi, c'est ça la source du problème. C'est un problème social. C'est un problème générationnel qui nous touche tous, à tous les niveaux. D'accord ? Aujourd'hui, tout le monde a accès à l'art. C'est plus seulement une histoire d'élitiste, là, à moitié chaud, avec des lunettes sur le bout du nez et une écharpe rouge, là, et une petite fuite de champagne. Non, c'est un truc qui touche tout le monde. Surtout les jeunes générations, bien sûr. Et voilà. Et c'est là qu'il faut être, qu'il faut renouer un peu avec tout ça et qu'il faut être, il faut remettre un petit coup de cravache, quoi. Ouais. Et alors, oula. Mais alors, attention avec ça, les gars. J'ai une petite anecdote comme ça. Je vais me confier. Je vais raconter un peu ma life. On s'en bat les couilles, mais c'est un bon exemple, je trouve. Attention avec le côté, moi aussi, je suis un artiste. D'accord? Moi aussi, j'ai compris des trucs.
Je suis un artiste.
S'il y a des études dedans, hein, c'est pas pour faire le malin ou pour se la péter, c'est qu'il y a une raison, d'accord? Ça s'apprend, l'œil ça s'éduque, on apprend des trucs, on apprend des lignes de force, on apprend un sens de lecture, on apprend plein de trucs, le rôle des couleurs, comment ça marche, c'est important. Donc faut surtout arrêter de se prendre pour des artistes en herbe, ok? Il faut prendre le temps, réapprendre. Pour la petite anecdote, voilà, quand on retape une maison ou quand on arrive dedans, quand on construit, on va passer par le moment où faut mettre de la peinture au mur. Étape très conne, d'accord? J'ai choisi de le faire, j'aurais pas dû, maintenant je sais, j'en ai chié à mort, mais je l'ai fait. D'accord? Je me suis occupé de la peinture de toute la maison à l'intérieur, ce qui veut dire les revêtements, les trucs. J'ai voulu me croire aussi peintre, mais je m'en suis occupé et il faut savoir que je m'en suis occupé, si vous voulez, quand même avec. J'ai été consciencieux. Je me suis appuyé sur mon savoir de couleur, d'harmonie, de feng shui, là, ce que tu veux, voilà. Mais je me suis appuyé sur mes études d'art. Okay. Et en fait, ce qui était très drôle, c'est que quand tu fais ça et que t'as des gens, tu sais, t'as les potes, t'as la famille qui vient t'aider et tout, les gens, ils vont te donner leurs conseils aussi. T'as remarqué? Ils vont pas te foutre la paix. Ils vont venir te dire, ouais, putain, moi j'aurais pas fait ça, moi je ferais ça. Oh non, vous allez quand même pas faire ça, tu vois. Et juste pour l'anecdote, j'avais choisi une couleur très très sombre, d'accord, pour mettre sur certains murs. Mais j'en étais sûr au moment où je l'ai choisi. C'est-à-dire que tout le monde est venu en me disant ce vieux truc. Oh non, faut pas mettre ça, ça assombrit. Voilà, tu vois. Donc, j'ai peint les murs, d'accord? Et une fois que je les avais peints, oh, dis donc. Oh, mais c'est super stylé, hein. Ah ouais, mais logique, hein. Non, mais cette couleur, elle claque trop, mec. Mais, putain, il y a deux jours, tu me disais que c'était une erreur. D'accord? Que tu ne ferais pas ça. Maintenant que c'est validé, maintenant que c'est prouvé, maintenant que c'est mis, maintenant que ça fonctionne, d'un coup ça devient une évidence. Mais faut arrêter avec ces trucs-là. Ça rend fou. Arrêtez de penser que vous aviez la clé, d'accord? Vous ne l'aviez pas, ok? Si vous aviez pris plus de temps à regarder, je sais pas moi, mais même sur Pinterest, hein, je vous demande pas d'aller vous fourguer dans des vieux bouquins de design du Bauhaus allemand, mais juste simplement de vous tourner vers des choses artistiques, prendre le temps de regarder comment c'est fait et pourquoi ça marche, parce que c'est bien gentil hein, de regarder des trucs comme ça à droite à gauche, et puis on voit un mur, on se dit ah putain la couleur là elle claque, mais en fait le mur en question il est dans un salon de 100 mètres carrés avec des lustres, 4 mètres de hauteur de plafond, du marbre au sol, donc forcément le mur il pète, faut l'adapter à chez soi, d'accord? Donc tout ça, ça s'apprend, les gars. Donc, je suis désolé, là, de péter l'ambiance, là. En plus, je suis vénère, maintenant. Voilà, j'ai tout gagné. Non, mais, en gros, voilà, il faut pas se fourvoyer. C'est des trucs qui prennent du temps. Et ça vient, et même, je vais vous dire, ça vient rapidement. Il y a des gens qui ont une meilleure sensibilité à ça, à l'art, en général, d'accord? Mais ça vient rapidement, et il faut prendre le temps. Il faut, petit à petit, il faut souffler un coup. Quand vous marchez dans les rues, prenez le temps de regarder comment les maisons elles sont faites. Prenez le temps, ça coûte rien. Prenez le temps de regarder, voilà, vous êtes passé 15 fois dans cette rue, vous aviez pas vu qu'il y avait une petite girouette sur un toit. Commencez par ça. Je vais pas vous dire aller dans les musées, parce que la plupart des gens vont me dire « Ouais, mais c'est chiant d'aller dans un musée et tout. » Mais non en fait. C'est là que t'apprends plein de trucs. Parce que je vais vous dire, vous allez surtout apprendre ce que vous n'aimez pas. Et ça, c'est important aussi. Le pire en art qui pourrait vous arriver, c'est de l'indifférence. Vous passez devant un truc, vous faites « Ouais, bon, les couilles, frère. » Puis voilà, passe à autre chose. Mais il y a vraiment des trucs importants à faire en termes de sensibilité. Regardez, ça me plaît pas. Pourquoi ça me plaît pas? Ça me plaît. Pourquoi ça me plaît? C'est super... je trouve que c'est super enrichissant en plus, honnêtement. Voilà, t'es là, tu prends le temps, t'as pas les yeux tout collés là, parce que t'as 24 heures de vue sur ton écran. C'est plutôt cool, franchement. Tu prends le temps. Il y avait un truc comme ça en école d'art qui était assez symptomatique, c'était les nuages. Je veux dire, tout le monde a tellement vu des nuages toute sa vie que ouais, bah c'est bon, moi je sais faire un nuage. Et puis ok, bah fais-moi un nuage réaliste. Et puis tu donnes un crayon à quelqu'un, une feuille de papier. Et puis là, c'est la galère. Là, c'est la grosse galère. Ah merde, mais attends, c'est pas une boule de mouton. Hein. C'est pas juste des bosses comme ça. Non, c'est faire un joli nuage. Ah ben merde, je comprends pas. Ben ouais, mais t'as jamais pris le temps de bien regarder comment c'est fait. Comment est-ce que le soleil il tape dessus là? À quel angle? Elle est où la lumière? Est-ce qu'il y a un petit liseré de lumière autour des fameuses boules là que t'es en train de dessiner ou pas? Ça vient d'où? C'est comment? Et voilà. Et c'est ça qui est intéressant. C'est en regardant qu'on va apprendre le plus. En prenant le temps de faire un... Comment c'est là, pour les fans de manga, là, aidez-moi, Sasuke, là, il a un truc, il a un œil qui copie, là, un Sharingan ou je sais pas trop quoi, là. Eh ben, faites un truc comme ça, là. Sharinganez votre entourage, Sharinganez votre vie, là. Voilà, regardez les choses et essayez de faire un copycat dans un premier temps, d'accord ? Moi, j'ai passé des années à décalquer. J'ai décalqué énormément. Et décalquer, c'est pas une connerie, même aujourd'hui. C'est très bien, ça nous apprend comme ça, le geste, ok? Un peu comme quand ton prof de tennis, là, il prend ta main et ta raquette derrière et il te montre, là, comment tu joues avec la hanche, là. Voilà, et bah, c'est un peu ce délire-là, ok? Bon, les gars, je suis sec, ça fait, pas loin d'une heure de podcast, je crois.
Je suis fatigué, ma gueule! Voilà, t'as baisé!
Je suis arrivé au bout de mes raisonnements, je suppose. Je dois encore avoir plein de choses à dire. J'ai toujours plein de trucs à dire, mais ça me paraissait important de faire ça. Voilà. Je sais que ça fait podcast de daron et tout, surtout à la fin là où je commence à lâcher des leçons de morale un peu. Mais vraiment, je vous invite à essayer au moins deux ou trois petits trucs que je vous ai donné comme ça, sans prétention, hein, sans prétention. Vraiment, juste de temps en temps y penser, se raisonner. Et voilà. Bon, écoutez, ce sera tout pour moi. Je vous laisse là-dessus. C'est un peu foutraque à la fin, mais je pense qu'il y a du bon à prendre. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis au prochain épisode. Prenez soin de vous.